Micro-Rebelle Reportage, c'est le magazine des luttes sociales et des alternatives politiques et économiques dans le bassin minier et au-delà. Micro-Rebelle Reportage, à écouter sur microrebelle.fr en podcast ou en téléchargement.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un courriel à contact@micro-rebelle.fr.
Vous pouvez nous envoyer vos actualités, vos suggestions, vos idées, toujours par courriel à contact@micro-rebelle.fr.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Micro-Rebelle Reportage. Aujourd'hui, nous vous proposons le deuxième volet de notre série en trois parties consacrée à l'agriculture paysanne. Nous allons très vite retrouver Jean-Luc Malpeau, qui nous accompagne tout au long de ces trois émissions. Jean-Luc, nous l'avons apprécié la semaine dernière, est un paysan en retraite qui a participé aux luttes paysannes sur la région ces 50 dernières années. Il est également impliqué dans la constitution du réseau régional autour de l'agriculture paysanne, avec ses associations, nous avons notamment évoqué Avenir et le CEDAPA, et son syndicat, la Confédération paysanne. Comme la semaine dernière, nous allons entrecouper nos échanges avec Jean-Luc par différents témoignages. C'est ainsi que, sans attendre, je vous laisse en compagnie de Dimitri et Caroline.
Dimitri Tabary, je suis exploitant agricole sur le Valenciennois, à Thian, à la ferme du Bayon. Donc, on est une petite exploitation qui a été recréée en 2013 sur 4 hectares et demi. Et nous élevons essentiellement des porcs sur paille et des volailles que nous commercialisons uniquement en vente directe à la ferme. Tous les samedis matins, et nous écoulons la totalité de notre production par ce vecteur, par cette façon de vendre, à la ferme.
Les porcs que tu commercialises sont transformés
Les porcs sont, je les emmène le lundi matin à l'abattoir de Valenciennes, qui reste un abattoir de proximité, je mets 10 minutes pour aller les emmener. Et ensuite, ils sont découpés par un prestataire qui est sur Cambrai. Donc, même chose, j'essaie de rester au plus proche, en fait. Ce prestataire s'appelle Viandaine, tout simplement. Donc, c'est un boucher historique de Cambrai qui a installé son fils dans une activité de découpe. Et je récupère généralement la viande le jeudi et je transforme. Donc, toute la partie charcuterie est faite sur l'exploitation agricole, par contre. Donc, saucisses, pâtés, rillettes... tête pressée, etc., etc., en fonction des saisons aussi.
Alors comment ça se passe, cette transformation? Il faut un atelier, il y a des labellisations, il y a des contrôles sanitaires
Alors, bien entendu, il y a une déclaration qui est faite au niveau de la DDPP. Hein. Cette déclaration nous permet de transformer sur la ferme, bien entendu, dans un atelier, sanitaire, qui n'est pas agréé, puisqu'on a une dispense d'agrément, puisqu'on transforme nos propres bêtes, en fait. Et qu'on ne revend pas à des intermédiaires. Donc on a une dérogation en fait à l'agrément CE, tout simplement, tant qu'on transforme nos bêtes.
Alors, peut-être un aspect matériel, hein. On a eu l'occasion d'entendre plusieurs personnes qui étaient installées, et revient d'une manière assez récurrente la question de la dureté du travail d'un côté, et de l'autre côté la question du revenu. Comment ça se passe pour toi ?
Alors nous, on a un cas un petit peu particulier, puisqu'on est tous les deux, mon épouse et moi sommes tous les deux double actives. Donc notre activité agricole nous permet de faire face à nos charges de l'exploitation agricole.
Donc tu équilibres quoi ?
On équilibre la partie investissement, mais on est incapable de tirer un revenu actuellement de notre exploitation agricole.
Alors, est-ce que ça, ce sera possible ? Alors, et à quel prix en développant
Alors, voilà, la seule façon de faire, c'est de développer. Hein. Cette année, là, à partir du mois de septembre, on tente une expérience. Mon épouse a pris une année de disponibilité puisqu'elle est fonctionnaire. Et on va essayer d'ouvrir non plus une matinée par semaine, mais trois demi-journées par semaine pour essayer de doubler l'activité de vente. Et ce qui nous permettrait à ce moment-là, normalement, de dégager un tout petit SMIG, on va dire. Alors après, c'est un SMIG pour quelqu'un qui travaille, qui est salarié. Hein. Si on rapporte ce travail-là au nombre d'heures qu'on passe sur l'exploitation agricole, bien entendu, voilà, on n'est pas du tout au taux horaire du SMIG.
Alors, je vais revenir sur cette installation, le fait que tu es double actif, autrement dit que tu n'es pas issu du monde agricole. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu as dû, à un moment donné, dire je vais me former. Comment ça s'est passé cette... Déjà, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça, premièrement ? Puis deuxièmement, comment ça s'est passé d'un point de vue acquisition de connaissances, de savoir, de savoir-faire ?
Alors moi, j'ai une double envie. Hein. Je suis issu, j'ai un grand-père qui était agriculteur. Hein. La génération de mes parents sont tous partis travailler soit à l'usine, soit comme fonctionnaire, très clairement. Donc la ferme est partie à l'agrandissement à ce temps-là. Hein. Et ça m'a toujours fait envie de revenir à la terre, à l'élevage en particulier. Et j'ai un fils qui, qui sait parler, veut être agriculteur. Donc clairement, on s'est redonné les moyens pour espérer pouvoir l'installer dans de bonnes conditions. Parce qu'il faut savoir que c'est très compliqué de se réinstaller hors cadre, comme on dit hein, dans le jargon administratif, puisque il faut se refaire un réseau, il faut retrouver une ferme à reprendre. Là, nous, c'est une ferme qui a été entre guillemets à l'abandon pendant pratiquement 4 ans, sur laquelle il y avait 75 hectares, mais nous, on aurait eu la possibilité de racheter uniquement ce qui n'intéressait personne globalement, hein, c'est-à-dire les pâtures qui étaient autour de l'exploitation agricole, au centre du village. Donc tout ça, ça engendre aussi des contraintes après techniques, puisque on va vite se retrouver bloqué en termes d'agrandissement, en termes de mise aux normes, etc.
Et donc ça peut poser souci justement pour le développement qu'on évoquait tout à l'heure ?
Tout à fait, ouais. Donc, là, clairement, pourtant on est installé depuis 2013, donc ça fait 4 ans, et on est déjà en train de réfléchir à une course à l'agrandissement, mais à trouver des terres, certainement à l'extérieur du village, pour pouvoir développer notre atelier porc, par exemple.
Très bien. Alors, ça nous donne peut-être une photo de l'activité. Maintenant, je voudrais qu'on, peut-être, si ça t'est possible, qu'on prenne le point de vue de ceux qui achètent. Qui est-ce qui vient, qui est-ce qui bénéficie des productions de la ferme ?
On a été très étonnés au départ quand on a démarré les premières ventes. Nous, on a démarré au tout début uniquement en colis. Hein, donc, nos clients, on peut les appeler comme ça, hein, étaient essentiellement des familles avec un peu de monde dans la famille, donc des grosses familles, entre guillemets, qui achetaient du colis. Et on a développé en parallèle, parce qu'il y avait une demande, une activité de vente au détail. Et là, en fait, on a tout un panel qui va de jeunes qui ont 20 ans jusqu'à des retraités qui viennent chercher leur viande toutes les semaines. Et donc, c'est assez intéressant. Et on a vraiment une pyramide. On n'a pas une pyramide, justement. On a un ensemble de personnes qui couvrent toutes les générations. Et il y a même des parents avec les enfants. Et les enfants sont vecteurs aussi dans l'acte d'achat. Et c'est vraiment intéressant. Je pense qu'il y a une vraie éducation qui peut se refaire par ce biais-là. Parce que les gens sont en face à face avec nous, éleveurs. On peut leur expliquer comment on élève, pourquoi on fait ça. Pourquoi on n'a pas des gros volumes ? Pourquoi toutes les semaines on ne peut pas avoir un filet mignon parce qu'il n'y en a que deux sur un porc et qu'on vend qu'un porc par semaine ? Et tout ça, je pense que c'est une vraie éducation à refaire vis-à-vis des jeunes, notamment.
Et apparemment, ça marche. Autrement dit, on a des consommateurs, enfin des clients, comme tu dis, qui ne vont pas en grande surface.
Ah, bien sûr, du moins, les clients que l'on a, alors on doit avoir un fichier, entre guillemets. On a plus de 500 clients différents qui viennent à la ferme tout au long de l'année et qui sont des personnes qui nous visitent au minimum 2-3 fois par mois, du moins. Donc, c'est vraiment une nouvelle habitude de consommation. Et ils font le détour exprès pour venir acheter leur porc et leur volaille à la ferme du Bagnon. Ils ne vont pas ailleurs.
Et ce qui les motive, c'est... J'imagine que c'est que tu n'es pas moins cher que la grande distribution, que tu es peut-être même un peu plus cher, enfin je le présume. Donc ce qui les motive, c'est la qualité, c'est la relation, c'est une conception de la façon de se nourrir. C'est...
Je pense que ce qui les motive le plus, c'est la transparence déjà. Moi, je suis capable, notamment on fait des journées portes ouvertes, même à n'importe quel moment, d'aller montrer mes bêtes, de leur expliquer comment je les alimente, comment je les transforme. Qu'est-ce que c'est que le... Pourquoi moi, éleveur, j'emmène mes bêtes moi-même à l'abattoir aussi? Parce que ça, c'est important aussi. Derrière, il n'y a pas de stress. Ça fait partie aussi de ce qu'ils recherchent en venant dans une vente directe comme ça. Ensuite, en termes de prix, nous, on a pris comme stratégie de dire, voilà, nous, on n'a pas d'intermédiaire, donc on peut se permettre de vendre globalement au prix de la grande surface, alors sauf quand ils font des promotions à 1 euro le kilo le porc. Hein. Mais globalement, on est sur des prix qui se valent avec la grande surface. La seule chose, c'est qu'on n'a pas d'intermédiaire. Donc, je veux dire que la marge qui est faite entre les deux, elle est partagée entre nous et l'acheteur. Tout simplement.
Alors, peut-être une dernière question sur l'activité en tant que telle. La solidarité entre paysans, la solidarité dans le monde agricole, tu la connais, c'est quoi? C'est des réseaux? Comment ça se passe?
Alors, au niveau de l'agriculture paysanne, comme je l'appelle, on a de vrais réseaux qui nous permettent de nous entraider, de nous donner des pistes, de nous motiver aussi, parce qu'il faut savoir que quand on est hors cadre, quand on est tout petit, vis-à-vis de nos voisins agriculteurs du modèle industriel, on va dire, c'est clair que on n'a pas beaucoup d'aide à aller chercher ces jeux. Alors après, il y a des exceptions, comme partout. Mais on a un vrai réseau. Moi, je sais que, par exemple, c'est l'association Avenir qui nous a permis de franchir le pas de l'installation, puisque les institutions classiques, à savoir la chambre, à savoir le syndicat, ne me conseillaient pas de m'installer, me décourageaient même très fortement de m'installer. Et en fait, je suis tombé sur une association qui m'a permis, en fait, de trouver des personnes qui, comme moi, hors cadre, s'étaient installées et réussissaient à vivre correctement, du moins avec eux. Alors, quand on dit correctement, c'est pas toujours correctement au niveau financier, mais c'est dans la philosophie de s'installer sur des petites exploitations. Et je pense que c'est vraiment important. Derrière, je me suis intégré aussi, grâce à eux, dans la Confédération paysanne, qui revendique plutôt, on va dire, à l'installation de plusieurs agriculteurs sur des petites exploitations agricoles plutôt que de favoriser l'agrandissement.
Alors donc, une installation finalement assez récente, en même temps beaucoup de projets de se développer, tu l'as dit. Aujourd'hui, quelle est ta vision du monde agricole, du monde paysan? Tu évoquais des difficultés, tu évoquais beaucoup de travail, tu évoquais des revenus qui demandent à grandir. Tu es optimiste, tu es pessimiste?
Alors moi, je suis très optimiste là-dessus, parce que je pense que, on le voit bien actuellement avec la crise agricole qu'il y a, quand je côtoie les paysans qui sont installés autour de moi, tous continuent en fait à avoir une vie qui correspond à leurs attentes. Je les entends pas se plaindre plus qu'à notre temps. Économiquement, ce sont des petites structures qui assument leurs charges, contrairement à des grosses structures qui, on le voit bien actuellement, peut-être encore cette année, si on a une deuxième crise dans les céréales, si la crise dans la production de lait continue, ces grosses structures-là ont quand même beaucoup de difficultés à assumer leurs charges financières. Si l'État, si l'Europe ne vient pas à leur secours, à mon avis, c'est des modèles qui économiquement auront du mal à sortir de cette crise-là. Alors que toutes les petites fermes qu'on a autour de nous passent très bien cette crise-là, puisque nos clients, ce sont, des gens de proximité. On ne voit pas des grands groupes, non.
Alors peut-être juste pour conclure cet échange radiophonique, on est aussi avec Caroline, qui est sur l'exploitation. Alors peut-être Dimitri, moi je réagis un petit peu, peut-être personnellement, tu vas me contredire ou pas. Le soutien du conjoint sur un projet comme ça, c'est important quand même.
Ouais, c'est indispensable. Je veux dire que c'est une aventure où on emmène, malgré nous, toute la famille. Je veux dire, nous, on travaille à deux sur l'exploitation. Les enfants, il y a le fils qui donne aussi un coup de main quand il est là. Bon, la fille, c'est un petit peu plus compliqué parce que, c'est pas forcément sa vision d'avenir. Mais bien entendu, on est obligé de vivre à 100% toute la famille sur la ferme parce que c'est tous les jours. C'est une dynamique familiale qu'il faut forcément avoir. Et puis on passe tellement de temps, je veux dire, sur l'exploitation agricole qu'il faut que la famille accepte forcément.
Alors justement, Caroline, donc Dimitri l'a précisé, tu es fonctionnaire. L'année prochaine, tu auras une disponibilité, tu seras à plein temps sur la ferme. Aujourd'hui déjà, quelle est ton activité et puis comment tu vois cette année prochaine?
Alors moi, mon activité, j'interviens surtout pour tout ce qui est réservation et contact, information, les gens qui nous appellent ou par Internet pour des informations. J'interviens aussi donc le samedi matin pour la vente, pour la préparation et puis les à côté du rangement, du nettoyage, on va dire. Et moi, après, mon avenir sur la ferme à partir de la rentrée, donc c'est vrai que ça sera de m'y investir beaucoup plus pour alléger aussi une partie de ce que Dimitri fait pour
y compris en ayant du contact avec les bêtes
avec, oui ça passera forcément aussi par là. Bon, ça déjà je le fais, ça m'arrive aussi de nourrir les bêtes, de m'occuper des bêtes, même si je le fais beaucoup moins souvent parce que mes horaires sont plus contraignants, mais
Alors quand Dimitri dit bon, un projet comme ça peut pas marcher si c'est pas un projet qui est porté par la famille, comment tu réagis?
Moi non, je pense que ça peut pas marcher si la famille derrière suit pas, parce que c'est impossible. Je vois quand je rentre du travail, on s'était posé la question justement avant que je prenne la décision d'arrêter, est-ce que je me retirais du projet, et puis parce que c'est vrai qu'à côté il y a encore les enfants, il y a la vie de la maison, et que je me remettais vraiment que sur mon travail, ou est-ce que j'arrêtais mon travail pour me mettre sur la ferme. Et c'est pour l'équilibre de la famille, c'est ce qui est le mieux, parce que c'est impossible de rentrer le soir, traverser la ferme et se mettre des œillères et dire le travail il est là, c'est toute la vie de la maison qui est là, quoi.
Et toi alors, optimiste pour...
Oui, je pense, oui. Quand on voit les relations avec les gens qui viennent, avec les clients le samedi matin, avec les gens qui viennent visiter aussi quand on fait des portes ouvertes, quand on voit la réaction de tous les enfants qui viennent avec leurs parents, voir les bêtes, qui viennent, même les enfants qui nous disent qu'ils aiment nos produits, le saucisson, les saucisses, qui demandent à leur papa... ou leur maman de l'acheter, oui, franchement, je suis optimiste.
Et puis finalement, on est complètement dans l'humain, puis c'est une activité qui a beaucoup, beaucoup de sens, quoi.
Oui.
Eh bien, merci Caroline, merci Dimitri, et puis bonne continuation.
Merci beaucoup.
Après ce premier témoignage, nous retrouvons Jean-Luc Malpeau.
Oui, alors moi, ce qui me vient tout de suite à l'idée, alors bien sûr, tout ce que je dis était quand même un petit peu schématique, hein, on ne peut pas entrer dans tous les détails, et les choses sont toujours plus nuancées que ce qu'on peut dire.
Hein. Bien sûr.
Mais il y a quand même deux grands pôles vers lesquels s'orientent les agriculteurs, des pôles contradictoires. Il y a un pôle qui est un pôle très intégré à l'industrie. On produit de la matière première pour l'industrie, au moindre coût. L'objectif est de fournir de la matière première à l'agroalimentaire essentiellement, un peu, on en parle moins, mais pour fournir de l'énergie, et puis pour exporter. Et là, il faut produire au moindre coût sur des grandes structures avec très peu de travail, en fait. Le meilleur moyen de diminuer les coûts, c'est de diminuer le travail. Enfin, c'est ce qu'on dit, en tout cas. En tout cas, c'est comme ça qu'on fait.
C'est, en tout cas, le système, c'est ce qu'il vise, en tout cas.
C'est ce qu'il dit. et donc là, c'est une agriculture qui évolue vers une concentration forte des fermes et une intégration forte aux filières. D'ailleurs, quand on entend un certain nombre de responsables agricoles, que ce soit un responsable de coopérative, syndicat, de la FNSEA, qui est quand même dans cette direction-là, très majoritairement, ils parlent depuis une bonne dizaine d'années, ils parlent très peu de la défense d'un modèle agricole, de la défense même du revenu agricole, il parle de la défense des filières. Alors, la filière, ça regroupe l'aval, donc ceux qui fournissent les matières premières à l'agriculture, donc les mieux placés, les plus connus, c'est les industries chimiques.
C'est les chimistes, oui.
Monsanto et tous ses copains, là. Et puis aussi ceux à qui on vend, c'est-à-dire l'agroalimentaire essentiellement, essentiellement l'agroalimentaire. Donc on attend, ils ont quand on, de cette tendance-là, ce pôle-là de l'agriculture considère l'ensemble. On défend des filières, qui sont des filières capitalistes carrément, quoi. Donc, et donc il faut que l'agriculture s'adapte à ça, c'est-à-dire la concentration des moyens de production, plus de technologies. Alors maintenant, on commence à parler de drones. L'autre jour, j'entendais dans une émission à la télé, là, sur Arte, un intellectuel, hein, je crois, qui disait que maintenant, l'agriculture, grâce aux drones, va pouvoir faire de la meilleure qualité et mieux respecter l'environnement. Je sais pas comment, mais bon. Donc on voit bien que cette agriculture-là demande, puisqu'elle se base essentiellement sur de la technologie et, et donc des capitaux, est une agriculture qui va être de plus en plus financiarisée, c'est-à-dire dépendre de la finance. Puisqu'il faut emprunter, il faut financer tout ça. Et donc les comptes qu'elle aura à rendre, ce sera à la finance. C'est quand même le pôle majoritaire, même si tout le monde, même s'il n'y a pas tant d'agriculteurs que ça, qui consciemment veulent aller vers ça, mais c'est quand même la tendance majoritaire, parce que tout le système pousse dans ce sens-là. L'autre pôle, c'est ceux justement qui sont issus en partie des courants dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, plus d'autonomie, plus de paysans, et aussi des pôles bio, par exemple, qui eux, existent depuis longtemps, mais qui ont été vraiment reconnus à partir des années 90. Encore que les bio, il y a un débat, hein, mais en général, ils vont plutôt dans ce sens-là, et de ceux qui pensent que l'agriculture doit être intégrée au territoire. Donc, qu'ils se considèrent moins comme des chefs d'entreprise, mais plus comme des acteurs d'un territoire.
Ce qui finalement était la vie paysanne de toujours.
Ouais. Oui. Alors, ce qu'on nous a appris, nous, quand même, parce que je pense que c'est important, cette notion de chef d'entreprise, c'est que quand on gère sa ferme comme une entreprise, on gère sa ferme pour optimiser les résultats financiers dans le contour de la ferme. Ce qui se passe ailleurs, ça ne nous regarde pas, ça ne nous concerne pas. Si on gêne les voisins, ben c'est pas notre problème. L'essentiel, c'est que notre ferme tourne bien. Si on pollue l'eau, ben c'est pas plus notre problème. C'est ça. Alors que quand on a une agriculture qui est intégrée sur un territoire, on prend en compte tous ces aspects-là. Et ça change complètement la façon de penser l'activité. Ça ne la simplifie pas, hein, mais ça change la façon de penser. Et dans ce cas-là, si on intègre au territoire, les comptes à rendre ne sont plus aux financiers, mais c'est des comptes à rendre à la population du territoire. Ce n'est pas les mêmes comptes. On ne rend pas les mêmes comptes dans ce cas-là. Donc voilà. Donc pour moi, ma vision d'ensemble, c'est ces deux pôles-là. Alors, ce qui se passe quand même, et qui s'exprime par la crise actuelle du lait, par exemple, c'est que beaucoup de gens qui ont suivi la direction de l'efficacité, de la productivité, et donc de la diminution des coûts, qui ont investi beaucoup, avec la déréglementation du marché du lait, ben, ils n'arrivent plus à rembourser. Et donc, tout en ayant fait un choix dans une direction, ils se rendent compte que c'est une impasse pour eux, une impasse tragique. Enfin, forcément, quand on pense au nombre de gens qui se sont suicidés depuis 5 ans, c'est catastrophique, quoi. Et pourtant, c'est des gens qui avaient bien suivi le modèle. Sauf que quand ils sont lancés dans le modèle, le lait était encore protégé, le prix du lait était garanti avec les quotas, plus ou moins garanti avec les quotas. Puis tout d'un coup, pour moderniser la politique européenne, on a supprimé les quotas, et ce système-là ne marche plus. Donc, le système, à mon avis, qui va dans le sens du maximum de productivité, d'intégration aux filières, etc., ne permet pas... met les gens complètement en insécurité. Alors, ça peut très bien marcher le jour où les cours vont monter, etc., et là, on peut gagner beaucoup d'argent, mais un jour ou l'autre, on est éliminé, quoi. Alors que le système plus territorialisé, où on investit moins, où on est une grande diversité, donne une plus grande résilience, pour employer des mots modernes. Ça ne veut pas dire qu'on gagne forcément beaucoup d'argent, mais on a moins de chances de se faire éliminer. Puis plus de satisfaction humaine aussi, hein. Enfin en général.
Ce qui fait que finalement la réalité que tu décris, pour employer aussi un autre mot, elle est finalement dialectique. Autrement dit, oui. tu la vois de manière très négative sur un versant, le versant industriel, agro-business, mais tu la vois aussi relativement optimiste, hein, on va pas exagérer non plus, relativement optimiste sur le plan de ceux qui effectivement sont attachés à un territoire, sont attachés à des modes de production respectueux. Et donc dans cette dialectique, dans cette contradiction, la balance elle est quand même du côté des puissances financières, du côté des puissances économiques dominantes.
Sûr, ouais.
Le rapport de force, il évolue, comment tu le situerais ?
Je ne sais pas. Je pense que dans la population, en général, une agriculture territoriale est, en général, a quand même la préférence. Je pense. On n'a pas fait d'enquête vraiment systématique, mais a priori, oui. Alors, en tout cas, elle est plus sympathique. Au niveau politique, j'en suis pas sûr du tout. Hein. Je ne sais pas ce que vont donner les états généraux d'alimentation, là, mais à mon avis, peu que j'ai entendu, c'est pas très bien parti. Hein.
Ouais.
C'est pas très bien parti dans ce sens-là, parce que justement, c'est dans ce sujet-là qu'on nous disait que pour mieux, par exemple, protéger l'eau, enfin pour polluer moins, les drones, c'est d'une grande utilité. Parce qu'ils vont permettre de voir, drones, GPS, on a tous ces trucs-là, si on intègre tout ça sur une gestion de ferme, on va voir là où il faut mettre un peu plus d'engrais, là où il faut en mettre moins, enfin bon, on n'a plus besoin d'aller sur la champ. Hein. C'est aussi ça, symboliquement et philosophiquement, il y a cette différence-là. On n'a plus les pieds sur terre.
Ouais, on est hors sol.
On est hors sol. Ouais. Et la rupture du paysan et de la terre est aussi... symbolique de la rupture de l'humanité avec sa terre. Quoi. Il me semble qu'il y a quand même un enjeu beaucoup plus large que simplement de dire avec la technologie on va résoudre des problèmes. Alors pourquoi ça marche? Parce qu'il y a quand même des gens qui gagnent de l'argent, même des agriculteurs. Le système productiviste a quand même fait gagner pas mal d'argent.
À quelques-uns.
Ouais. Même des fortunes.
Oui, bien sûr. Alors c'est vrai que c'est les états généraux de l'alimentation, donc c'est... cette grande consultation qui va s'étaler sur plusieurs mois, hein, qui est proposée par le gouvernement Macron, ce même gouvernement qui est aujourd'hui imprégné de l'esprit start-up, de l'esprit innovation, et donc on peut s'attendre au fait qu'effectivement la solution soit du côté de la technologie présentée comme le progrès, et pas du côté de l'humain, près de la nature.
Ouais.
Près de...
C'est ce que je crains, oui. Ouais. Et que la question environnementale, qui semble être une prise en compte de ce gouvernement, le sera de plus en plus par des moyens technologiques.
Ouais.
Me semble, mais je ne sais pas, hein, mais c'est une crainte en tout cas.
Non, je pense que cette crainte, elle est réelle. Hein.
Elle s'appuie sur des constatations. Ouais.
Et donc on va de plus en plus vers un monde agricole derrière des écrans, finalement.
Oui. Alors c'est très valorisant hein, pour... on nous a tellement dit qu'on était des plougues, des cutéreux, des gens qui ne savaient pas parler, on sait tout juste si on savait lire, et tout d'un coup on se retrouve en train de gérer des trucs avec il y a des tracteurs où il y a 3-4 ordinateurs, moi j'ai jamais eu ce tracteur là, mais enfin etc. On est quand même des, il y a une sacrée promotion symbolique de ce point de vue là.
C'est clair.
Alors que le côté attentif à la terre, avec tout ce que représente la terre, donc au niveau pas seulement symbolique, mais la vie du sol, etc., c'est pas tellement valorisé, alors que c'est bien plus intéressant et bien plus riche, et ça devrait être plus valorisant, mais quand on prend de la terre dans ses mains pour regarder comment elle est, ben c'est pas la même image que quand on tape sur un écran. Quoi.
C'est vrai, et c'est bien dommage. Hein. Moi, j'avais, au sein de Micro Rebelle, on discutait avec d'autres jeunes, et aujourd'hui, on parlait des générations. C'est pour te donner un exemple qui va peut-être dans le sens de ce que tu dis. Et il y a un certain temps, une génération de... Enfin, les jeunes, ils savaient évoquer une vingtaine de noms d'arbres ou de reconnaître des feuilles. Aujourd'hui, on ne sait plus faire ça, mais on sait citer une vingtaine de marques, par exemple. C'est aussi ce changement de vision qui... Très bien, mais écoute, merci Jean-Luc pour cette photo du monde agricole aujourd'hui. J'avais envie de revenir avec toi, si tu es d'accord, sur peut-être la réalité régionale, et notamment Tu avais commencé à évoquer l'évolution du mouvement paysan-travailleur, confédération paysanne. Alors, en région, ça s'est concrétisé comment? À quelle époque? Tu évoquais le CEDAPA, Côte d'Armor. Est-ce qu'il y a eu des équivalents en région? Enfin, comment tout ça s'est passé? Comment est-ce que finalement, ce monde paysan qui lutte, qui essaie de retrouver son autonomie, qui essaie de résister au rouleau compresseur dominant, comment est-ce qu'il s'est organisé, dans quel type d'organisation, avec quel type de finalité?
D'accord, donc pour la tendance qui s'est un peu éloignée progressivement de la FNSEA, alors déjà dans la région, il y avait des militants qui, dès le départ, ne se sont jamais engagés de ce côté-là, hein, pour des raisons d'analyse politique. Ils avaient donc des gens de mon âge, hein, à peu près, quoi, enfin, qui, eux, avaient refusé carrément de s'engager de ce côté-là. Ce que moi, je n'avais pas fait, on était un certain nombre à ne pas l'avoir fait. On s'était dit, ben, si on y va, on pourra au moins défendre nos idées. Bon. Et donc, c'est... Et donc, c'était eux qui étaient les porteurs du mouvement paysan-travailleur à ce moment-là. Même si on était en contact avec eux, c'était quand même eux qui portaient ce mouvement-là. Non, je parle des années 70. Hein.
D'accord.
Et à partir de 80, donc, on s'est rapprochés, forcément. Je dois dire quand même que quand on était aux jeunes agriculteurs, on était majoritairement pour les cantons. Et une partie, quand on s'est aperçu que de toute
donc,
façon...
Donc contre le national, finalement.
Oui, c'est ça. Oui. D'accord. Mais quand on s'est aperçu que de toute façon, on avait perdu la partie parce que l'évolution faisait qu'on était de moins en moins écouté et même remplacé. Une partie donc a quitté le CDJA et s'est rapproché des paysans travailleurs. Et puis une partie a quitté le CDJA et ne s'est pas retrouvée à la FNSEA. Traditionnellement, le CDJA, c'est la porte ouverte à la FNSEA. Hein. Et parce qu'ils n'étaient pas d'accord, mais ils sont plutôt engagés sur des actions territoriales, en fait. Enfin, que j'appelle territorial, c'est-à-dire faire de l'accueil, faire du tourisme, faire de la vente directe, enfin des choses comme ça, sans s'engager dans un mouvement comme la Confédération Paysanne. Donc, en fait, la Confédération Paysanne Nationale s'est créée en 87, et la Confédération Nationale Régionale aussi, en même temps, puisque, ou à peu près, enfin, oui, je pense que c'était la même année, ou quelques mois près, quoi. Puisque les gens étaient déjà prêts, hein. Ils étaient déjà formés et prêts à ça, oui. Et, mais parallèlement, il y a eu, par des militants jeunes à ce moment-là, la création du CEDAPA Nord-Pas-de-Calais.
Donc, à l'image de ce qui se passait en Bretagne.
Oui, qui intégrait, oui, enfin, en gros, c'est le modèle, c'était celui de Bretagne, sauf que le CEDAPA Nord-Pas-de-Calais a un S à la fin, qui veut dire solidaire, pour une agriculture autonome et solidaire, et c'était en référence à ce que je disais tout à l'heure par rapport aux pays du Sud. Donc d'accord. On a intégré cette dimension-là, ils avaient intégré, moi j'y étais pas, hein, dans cette dimension-là dans l'association et dans les objectifs.
Avec toujours un distinguo entre les organisations, autrement dit, on retrouvait des membres de la Confédération Paysanne dans le CEDAPA,
ouais,
régional, mais pas forcément de lien organique, ou alors ça s'est vécu différemment ici.
Il n'y avait pas de lien organique, mais c'était, là, pratiquement, c'était tous des gens qui sont venus à la Confédération Paysanne après, puisque là, quand le CEDAPA a été créé, bon, c'était pratiquement la même année, quoi. Le CEDAPA s'est créé 6 mois avant, je crois.
Ah, d'accord.
Donc c'était, ça n'a pas été fait par la même organisation, mais les gens étaient...
C'était les mêmes personnes, quoi.
C'était pratiquement les mêmes personnes, en partie, quoi, oui. Certains étant plus sensibles à un aspect, d'autres étant plus sensibles à l'autre. D'accord. Mais le CEDAPA n'a jamais été, n'était pas dépendant de la Confédération Paysanne, CEDAPA de Nord-Pas-de-Calais. Ensuite, il y a eu, avec d'autres organisations, la création d'un réseau qui fait qu'on était proches. On se référait tous à l'agriculture paysanne, en fait.
D'accord. Et donc le CEDAPA Nord-Pas-de-Calais, donc avec un S, le S de solidaire, avait la même perspective que le CEDAPA Bretagne, autrement dit, c'était donner des outils pour aller vers l'autonomie.
Oui.
D'accord.
Ouais, au début, c'était surtout des formations, je pense, qu'ils ont fait pendant 2-3 ans. Moi, je suis arrivé au CEDAPA Nord-Pas-de-Calais en 90-91, je crois.
2-3 ans après, c'est ça.
2-3 ans après, oui. Et là, on a fait un travail plus. On a intégré la question environnementale. Alors qu'au départ, c'était plus l'autonomie et solidarité. Et là, on a intégré en même temps la question environnementale, ce qui fait que très vite, à partir de 92, on s'est positionné dans. la recherche dans le domaine d'un développement durable. 92, c'est Rio, hein, les oui. sommets de la Terre de Rio. Donc la notion de développement durable a été vulgarisée, enfin, plus connue en tout cas, puisqu'avant, on ne savait pas que ça existait. Mmh. En tout cas, on n'en parlait pas. Et donc, on s'est positionné à ce moment-là, avec le soutien aussi du Conseil régional de l'époque. Très vite, quoi, à partir de 93.
D'accord. Là, c'était déjà l'époque de Marc-Christine Blandin
qui est arrivé en 93. Donc c'était, on avait déjà intégré la dimension environnementale, mais là, on a eu les moyens de travailler plus sérieusement, c'est-à-dire d'embaucher des salariés de façon durable.
Donc je précise pour nos auditrices et auditeurs, hein, Marc-Christine Blandin, c'est une militante verte hein, à l'époque, qui a été nommée présidente de la région Nord-Pas-de-Calais à la suite de divergences, d'embrouilles au sein du groupe majoritaire PS hein, de l'époque. Voilà. Alors donc le CEDAPA dispose de plus de moyens, notamment humains, des salariés, c'est ça,
ouais.
à cette époque-là.
Oui, et surtout, on avait déjà eu embauché une salariée pour faire une étude, hein, la première étude, mais c'était un contrat de 6 mois parce qu'on avait les finances pour 6 mois et quand l'étude est finie... Le contrat est fini. Tandis que là, avec le Conseil régional, on a pu établir un programme de 5 ans. Donc de suivi de ferme, alors officiel, enfin on disait en développement durable, sans trop savoir ce qu'on mettait derrière. Hein. L'objectif, c'était de... On allait voir des agriculteurs. Donc au départ, on y avait une trentaine d'agriculteurs, en partie dans l'Avesnois, en partie dans le Boulonnais, où on leur disait, est-ce que vous êtes d'accord qu'on suive vos fermes en référence au développement durable. Et pendant 3 ans, on faisait un... On faisait un diagnostic, pendant une année on faisait un diagnostic, une année on établissait un peu un projet qui était pour nous dans la direction d'un développement durable, puis après il y avait un suivi, donc c'était vraiment un programme de 5 ans. Bon, évidemment, il fallait faire les comptes rendus et tout ça. Et ça nous a permis, l'avantage, je trouve, enfin de mon point de vue, hein, c'est que ça nous a permis de définir au fur et à mesure ce qu'était pour nous un vrai développement durable en agriculture. Puisqu'au départ on n'avait pas de modèle. Et donc ça aboutit aussi, ça a été utilisé aussi quand au niveau national, on a travaillé sur la charte d'agriculture paysanne. Ce travail-là a été retravaillé au national, mais on avait déjà débroussaillé un peu le terrain. Quoi.
Tu peux donner quelques points de repère justement sur quels sont ces axes qui font qu'on peut parler de développement durable en matière d'agriculture?
Oui. Alors pour nous, dans le Nord-Pas-de-Calais, les deux axes essentiels, c'était l'autonomie. Rechercher l'autonomie, donc par rapport donc autonomie financière, autonomie par rapport aux fournisseurs, par rapport à un peu dans le sens de ce que je disais tout à l'heure là, et puis aussi autonomie décisionnelle, c'est-à-dire être capable de dire à un conseiller de gestion votre proposition ne m'intéresse pas parce qu'elle ne convient pas à ce que je suis et ce que j'ai envie de vivre, quoi, en gros. Je simplifie un peu, mais c'est un petit peu cette expérience là donc l'autonomie, et puis alors ce qu'on disait, solidarité, au sens où c'est la solidarité, on l'utilise quelquefois comme étant un sentiment de bienveillance vis-à-vis de gens plus malheureux. Bon, c'est pas ça pour nous. Solidarité, c'est la reconnaissance que notre devenir dépend du devenir des gens avec qui on est. Donc notre devenir en tant que paysan dépendra du fait qu'il y aura des paysans ou pas autour de nous, mais dépendra aussi du fait qu'il y aura une vie locale autour de nous ou pas, dépendra du fait que il y aura des consommateurs qui seront heureux de travailler avec nous ou pas. Enfin, c'est dans ce sens-là, solidarité. C'est une communauté de destin, je dirais. On ne peut pas employer des grands mots, quoi. Il n'y a pas une connotation morale. C'est bien une reconnaissance d'une situation. Donc voilà, c'est les deux grands axes sur lesquels on s'est appuyé. Et à partir de là, on a établi, bon, je ne vais pas les détailler, mais des critères d'évaluation. Et ça a permis de publier une plaquette qui existe toujours, je crois, sur ce qui est pour nous un développement durable en agriculture.
Et alors, donc à cette époque-là, c'est une particularité en région Nord-Pas-de-Calais du fait de l'aide régionale, ou alors il y a eu le même type d'avancée ailleurs en France?
Il y a eu le même type d'avancée, mais un peu plus tard. Parce qu'au moment-là, on a fait ce travail-là et on s'est aperçu qu'on a rencontré des gens du Sud-Ouest qui faisaient un travail sur l'évaluation de fermes en agriculture paysanne. Un travail d'analyse comptable, temps de travail, etc. Impact sur l'environnement naturel. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on travaille ensemble parce qu'on bricolait chacun des critères de notre côté. Et donc on a fait un groupe à ce moment-là, national, pour travailler sur une charte d'agriculture paysanne, pour qu'on définisse plus précisément ce qu'était pour nous une agriculture paysanne, qui était une forme de développement durable. Si on le prend au sens fort, hein, je ne vais pas expliquer toutes les avatars du développement durable, enfin, il y a tout hein, aussi. Hein. Et donc, les principes qu'on a définis d'une agriculture paysanne sont soit des principes de solidarité, soit des principes d'autonomie, mais enfin, il y en a une dizaine. Et à partir de là, oui, il y a eu des régions qui ont participé à ce travail-là, d'autres régions qui ont mis en place des groupes agriculture paysanne. La région Nord-Pas-de-Calais est peut-être la seule où ce n'est pas une ADAR, donc une association qui est, elle, structurellement liée à la Confédération paysanne, qui est chargée de la promotion de l'agriculture paysanne. C'est le CEDAPA dans le Nord-Pas-de-Calais parce que historiquement, on avait pris un peu d'avance.
Mais tu disais qu'en Bretagne, c'était pareil?
En Bretagne, non, il y a pas, le CEDAPA ne s'est pas réclamé de l'agriculture paysanne par la suite.
Ah, d'accord.
Il est resté sur son domaine autonomie et plus technique. Alors que nous, on a intégré dans notre... quand on intègre l'agriculture paysanne, quand on se réfère, on intègre forcément des notions sociales, territoriales, etc. D'accord. Ce qui ne veut pas dire qu'eux ne s'en soucient pas, mais ce n'est pas dans leur, leur objet.
C'est pas un des drapeaux qu'ils portent. Quoi.
Okay. Oui.
D'accord. Alors, tu évoquais... Donc là, on est fin des années 80, et on est en années 90. On a le CEDAPA et la Confédération paysanne, avec des gens qui sont dans les deux organisations.
Ouais.
Hein, il y en a un, c'est un syndicat, c'est la Confédération paysanne. L'autre, le CEDAPA, c'est plus un mouvement.
Une
association de formation, de recherche.
Ouais, ouais. Qu'on peut dire de développement, mais c'est pareil, qu'est-ce qu'on entend par développement? Mais on peut dire ça aussi, si on donne au développement un mot beaucoup plus positif que qu'on met souvent.
Oui.
Dépenses qu'on développe. Et il y avait en même temps que le CEDAPA, s'est mis en place une association pour les agriculteurs en difficulté. Hein,
d'accord.
Qui s'appelait l'ARAD, Association Régionale des Agriculteurs en Difficulté. Agriculteurs en difficulté qui, au départ, avaient été soutenus essentiellement par des militants paysans-travailleurs et au début de la Confédération paysanne. Et ensuite, une association qui s'est créée et qui a commencé à embaucher des salariés pour accompagner des gens qui étaient en situation de faillite, enfin,
des précarités,
qui ne pouvaient plus payer la MSA, donc qui risquaient de devoir vendre leur ferme, avec comme objectif d'essayer de les remettre à flot, et si vraiment il n'y a pas moyen qu'ils sortent dans des conditions acceptables. Quoi. Et donc là, ça demandait quand même aussi une compétence particulière d'accompagnement, parce qu'il y a un accompagnement psychologique, etc., le psychologique est très important. Hein.
Et la RAD se reconnaissait aussi dans l'agriculture paysanne?
À ce moment-là, oui. Après, alors moi je ne veux pas parler à la place de la RAD, mais la RAD a voulu prendre publiquement une neutralité. Alors elle fait partie en même temps du réseau, mais en même temps elle ne se revendique pas, je ne pense pas que maintenant elle se revendique pour une agriculture paysanne. C'est plus dans... Je ne pense pas. Bon, ce qui s'est trouvé aussi, c'est que la RAD a eu accompagné des gens qui étaient... plus, me semble-t-il, à la FNSEA qu'à la Confédération paysanne. Et des gens qui, après, se sont engagés dans l'association. Donc, ils ne voulaient plus marquer, une appartenance trop nette.
D'accord.
Donc, il me semble qu'il y a une forme de neutralité par rapport au syndicat.
D'accord.
Ce qui ne veut pas dire que sur le plan éthique et des orientations, on soit en désaccord. Hein. Je ne connais pas assez pour l'affirmer, mais je pense qu'on est quand même un peu dans la même ligne.
Tu peux revenir... concernant la Confédération paysanne, sur les luttes qui ont pu être menées à ce moment-là, enfin, quelles étaient les thématiques que prenait la Confédération paysanne, donc avant les années 2000, quoi, pour situer, et puis même après, hein, si tu le souhaites. Quoi, est-ce qu'il y a eu des grandes thématiques ou des grands combats, des grandes bagarres dans lesquelles la Conf s'est investie?
Mais il y a eu... alors, ce qui me vient à l'idée maintenant, là, c'est... par rapport au foncier, par exemple, par rapport à l'installation, il y a eu un certain nombre de luttes pour pouvoir installer des gens sur des petites fermes. Pour s'installer en agriculture, il faut avoir l'aval de la commission des structures, hein, qui autorise ou pas un agriculteur à reprendre une terre, l'objectif de la commission des structures, donc qui date de des politiques des années 60, hein, c'est de créer des fermes moyennes. C'est-à-dire d'éviter que les terres aillent aux plus grosses fermes, mais aussi d'éviter qu'il y ait un trop grand morcellement. Bon. Et en général, les gens qu'on voulait installer étaient plutôt en dessous de ce qui était souhaitable, en tout cas souhaité par ces gens-là, par ces structures-là qui étaient dominées essentiellement par l'administration agricole et la FNSEA, Chambre d'agriculture. Donc il a fallu, il y a eu un certain nombre de bagarres, oui, là, pour installer des gens contre ça. Qui a donné, dans les années 95 aussi, la création d'associations à venir, dont on pourra peut-être parler après, hein, hein, qui favorisait l'installation de gens dont on ne voulait pas, en fait. Hein. Alors, il y a eu d'autres luttes par rapport au triage des semences, puisqu'à un moment, il y a eu interdiction, pratiquement la volonté d'interdire de ressemer nous-mêmes, de garder une part de notre récolte pour la ressemer. Donc, il fallait absolument passer par les marchands les marchands de semences.
Les semenciers.
Mmh. Les semenciers, oui. Donc là, il y a eu des bagarres, oui. Avec des... Alors, curieusement, l'interdiction de ressemer a provoqué l'achat de matériel de triage, y compris dans des grosses fermes. Hein. Les grosses fermes qui, jusque-là, achetaient beaucoup de leurs semences aux semenciers, se sont dit, au fait, il faudrait peut-être qu'on... Donc moi, j'ai connu des grosses exploitations qui ont acheté un système de triage, pour faire leurs semences. Bon, nous, c'était pas notre cas, mais on allait trier. Il y avait un trieur qui était d'accord pour cette action-là, qui lui avait le matériel et qui allait de ferme en ferme, et on allait un certain nombre pour faire le triage et puis en même temps pour montrer qu'on était nombreux pour défendre cette pratique-là. Donc là, et c'est le combat pour les semences est toujours présent. Hein. On a actuellement le droit de ressemer sa propre semence, mais on n'a pas le droit de l'échanger avec quelqu'un d'autre et ni d'aller trier chez quelqu'un d'autre, quoi. Donc c'est quand même assez restrictif, et on sait bien que l'objectif des semenciers, c'est de nous rendre complètement dépendants de leurs semences. Mmh. Donc il y a cette lutte-là qui est toujours actuelle, mais qui date d'une vingtaine d'années, quand même, il me semble. Mmh.
Hein. J'ai relevé quelques données concernant cette question, qui en fait, on parle aussi beaucoup de biodiversité, hein,
oui.
Moi, j'ai relevé que depuis... aujourd'hui, il y a à peu près 300 espèces qui couvrent l'essentiel de l'aspect nutritionnel de la population mondiale.
Oui.
Alors qu'il y a un siècle, il y en avait des milliers, quoi. Des milliers d'espèces. Oui. Et une autre donnée, en 60 ans, 80% des variétés cultivées en France ne le sont plus.
Oui, oui, oui.
C'est assez significatif, effectivement. Le marché passait par là, quoi. Et le marché, il a restreint les variétés, donc les semences autorisées, entre guillemets.
Oui, puisque après la guerre, là, c'était clairement dit qu'il fallait, il fallait normaliser, en fait, l'agriculture. Hein. Donc il fallait supprimer, il y avait un plan de suppression de, je ne sais plus combien, mais de la majorité des races bovines. Il fallait garder 4 races de viande et 4 races de lait. Mais toutes les races locales devaient disparaître. Mais c'était explicite. Hein.
Ouais.
Et elles n'ont pas disparu parce que des gens, des éleveurs ont voulu les garder quand même, mais quelques-uns, quoi. Pareil pour les semences, hein, l'objectif de ce moment-là, c'était d'utiliser toutes les semences sélectionnées et donc d'éliminer les variétés anciennes qui avaient l'inconvénient d'être un peu moins productives et d'être très hautes.
Mmh.
Et les variétés anciennes, si on mettait de l'engrais, elles versaient.
Ah oui.
Donc il fallait sélectionner des variétés courtes pour pouvoir mettre plus d'azote, pour avoir plus de grains. Et donc les variétés anciennes ne conviennent pas. Voilà. Et puis en plus, ça permettait d'avoir aussi une homogénéité des produits pour les industries qui vont transformer. Ça, c'est aussi un point important. Les industries transformatrices, que ce soit de lait ou de céréales, plus elles ont un produit standardisé, plus elles peuvent régler leur technologie, leur process de fabrication en fonction de ce produit-là. S'ils ont des produits très différents, du blé, il faut demander aux paysans boulangers, mais chaque variété, d'après ce qu'ils me disent, se travaille, se pétrit différemment.
Mmh.
Ça, on peut le faire quand on pétrit à la main, mais si on met tout ça dans une machine, ça ne marche plus, quoi. Donc il y avait cette volonté-là, oui. C'était une volonté vraiment explicite. Hein. Ce n'est pas une conséquence, c'est un choix.
Choix de départ.
Et puis derrière ça, bien sûr, derrière toute cette argumentation-là technologique, y a l'intérêt de ceux qui veulent avoir la main mise sur les semences, donc sur l'alimentation mondiale. Et bien sûr, il y a
Monsanto. Cette,
bien sûr, la volonté de dominer. À partir du moment où on domine complètement la distribution des semences, on domine l'alimentation. Hein.
Ouais. avec toutes les spéculations qu'il peut y avoir derrière.
Ouais. Donc les produits, on domine le type de production agricole et par conséquence le type de transformation qu'on fera après. Il y a une logique impeccable derrière ça.
Implacable
hein.
Même.
Implacable. C'est pas n'importe quoi, hein, c'est vraiment. Non, c'est... Donc, mais alors les conséquences de cette perte de biodiversité, évidemment, ça risque d'être catastrophique parce que comme on n'a plus la diversité des semences et des espèces, on n'a plus la capacité de s'adapter aux sols différents. Alors, tous les sols dans le monde, même en France, peuvent être très différents. Et l'intérêt de la diversité, c'est qu'on peut adapter chaque. Et ça fait partie de la compétence d'un paysan qu'il devrait avoir, qu'on a perdu, que moi j'ai perdu, hein, je reconnais. Hein. De savoir adapter une variété à un type de sol.
D'environnement.
Donc. Pour éviter de devoir compenser par des engrais, par des traitements, etc.
Tu estimes qu'il y a eu beaucoup de pertes de savoir-faire de manière générale.
Mais c'était. Moi, je dis donc, je reviens sur en 64, quand j'ai commencé à travailler, donc j'ai commencé à m'intéresser aux questions agricoles et j'ai fait aussi quelques formations là, avec des techniciens. C'était volontairement, on nous disait. Oubliez complètement ce que faisaient vos pères. Il fallait l'oublier, c'était archaïque, c'était terminé. Il faut aller de l'avant et entrer dans le monde nouveau qui, avec toutes les promesses qu'il y avait d'un monde moderne, etc. Quoi. Et si on voulait être. Je me souviens d'un directeur de centre de formation qui nous disait il faut vous sortir de votre situation de cutéreux pour devenir des agriculteurs, chefs d'entreprise.
C'est incroyable. Hein.
C'est incroyable. Donc quand on dit ça à quelqu'un de 17 ans, où on a toute notre vie à construire, ça marque.
Ouais.
En plus à des hommes, parce qu'en plus la technologie, c'est quand même un peu masculin quand même.
Ouais, bien sûr.
Ça valorise On avait envie d'être des hommes à 17 ans.
Ouais, bien sûr.
Non, mais
ouais.
Avec le recul, bon, j'étais pas conscient de ça à ce moment-là, mais avec le recul, je me dis qu'il y a vraiment eu des modes. Je suis pas sûr que les gens qui le faisaient étaient conscients de ce qu'ils faisaient, mais c'était très efficace. Oubliez ce que faisaient vos pères, ouais.
Nous retrouverons Jean-Luc dès la semaine prochaine à l'occasion du troisième volet de cette série consacrée à l'agriculture paysanne. Pour l'instant, je vous propose d'écouter le témoignage de Benoît. En début d'émission, Dimitri et Caroline ont évoqué leur installation hors cadre familial, c'est-à-dire que ni l'un ni l'autre ne sont issus du monde agricole. Dans le témoignage qui suit, Benoît, en compagnie de son frère Stéphane, ont choisi de reprendre la ferme de leurs parents. Je laisse Benoît nous rapporter les différents aspects de cette reprise et je vous retrouve la semaine prochaine pour le troisième et dernier volet de cette série.
Bonjour, donc je suis Benoît Delmotte. Donc, à la base, j'étais infirmier et fils de paysan. Les parents souhaitaient céder la ferme mais n'avaient pas dans l'idée que mon frère et moi reprenions la ferme. Donc on les a poussés, enfin, on leur a expliqué que nous, ça nous intéressait bien de reprendre l'exploitation agricole familiale. Et donc, on a repris l'exploitation au 15 décembre 2015. Et donc, depuis, on est double actif avec mon frère, et sur la ferme et à l'hôpital. Donc, voilà.
Donc, décembre 2015, ça veut dire que ça fait à peu près un an et demi hein, que ça tourne. Mm-hmm. Donc, ton frère Stéphane et toi, Benoît. Vous continuez à travailler par ailleurs et vous investissez sur la ferme. Alors, comment ça se passe ? C'est facile
C'est pas forcément évident parce qu'il faut caler les deux plannings de travail avec les aléas de la ferme. Parce que la ferme, tu peux pas décider du temps, tu peux pas décider... Autant à l'hôpital, je peux dire, je viens tel jour, enfin, tu peux prévoir ton planning à l'avance. Là, à la ferme, tu sais jamais si demain il va vraiment pleuvoir, si. Enfin, voilà.
c'est clair, oui. Effectivement, j'imagine un petit peu parfois le casse-tête. Tu peux la présenter, la ferme ? Qu'est-ce que c'est ? C'est quel type de production ? Quel type de débouché ? Comment ça se passe ?
Donc c'est une ferme qui est qui était en polyculture élevage du temps de mon grand-père, etc. Mais quand mon oncle a repris dans les années 90, il a arrêté complètement l'élevage. Il est passé sur un mode de polyculture classique, enfin de culture classique, céréales, betteraves, pois de conserve. Pas très varié quoi en fait. Et depuis après, donc mon père lui avait repris la ferme de son frère en 94 Donc ça faisait deux entités différentes. Il y en a une pour laquelle, enfin, donc en 2012 sur l'exploitation de mon père, on a commencé à convertir en bio. Donc on a essayé en commençant par une parcelle et puis tout doucement tous les ans on a passé en bio plusieurs parcelles quoi. Donc là on est à peu près à la moitié de la surface en bio quoi,
sur une surface totale de combien ?
On est à 86-7 hectares. Pour deux, quoi.
Et les débouchés, donc ?
Donc, les débouchés, donc en bio, donc on fait de la betterave rouge donc qui part chez Nora Bio, chez des cuiseurs. C'est la betterave rouge qu'on retrouve dans les supermarchés sous vide la plupart du temps, ou chez Biocoop aussi, parce qu'ils travaillent aussi avec Biocoop. Et puis après, donc les céréales, ça part chez Bioserre pour ce qui est bio. Et après, bon, tout ce qui est en conventionnel, ça reste... ça part encore dans le conventionnel pour... Donc on compte terminer la conversion pour 2021 à peu près. Donc d'accord. Être complètement en bio en 2021-22 maximum. Quoi.
Sur l'ensemble de
l'exploitation, oui.
D'accord. Alors donc tu avec ton frère, donc deux personnes hein, qui par ailleurs travaillent chacune de leur côté. Mm-hmm. L'organisation c'est quoi ? C'est chacun des tâches particulières ou alors tout le monde s'occupe de tout et puis on pallie à tout ?
C'est tout le monde s'occupe de tout. Alors Stéphane lui il a un fonctionnement plus simple, c'est qu'il a une garde de 24 heures par semaine comme il est à mi-temps. Il est à mi-temps de 35 heures et il arrive à faire 24 heures de garde d'affilée. Donc c'est pour lui, sa semaine, elle est plus simple, quoi, parce qu'il a une garde de... et ses plannings, l'hôpital, lui, il les a 3 mois. Donc ça lui permet de gérer pas mal de choses à l'avance et d'être plus présent aussi sur l'exploitation, ce qui facilite aussi les tâches... De la gestion des tâches sur la ferme. Quoi.
C'est plus compliqué pour toi, en fait.
C'est plus compliqué pour moi parce que je suis qu'à 80% et les postes que je fais, les postes les plus longs que je peux faire, c'est 10 heures, c'est quand je suis nuit. Donc après, donc le fait d'être de nuit, il faut que je dorme un peu quand même la journée. Et après, ça me permet quand même d'aller dans les champs. Mais bon, l'avantage d'être de nuit, c'est que je fais moins de postes sur 15 jours, je fais moins de postes. Et puis, ça me permet la semaine d'après de récupérer des jours. Quoi, parce que je,
comme je suis à 4... la ferme. Quoi.
Pardon ?
Et d'être disponible sur la ferme.
D'être disponible sur la ferme, ouais. Donc, j'essaie. En ce moment, en tout cas, je fais beaucoup de nuit. Et ça me permet de libérer plus de jours de repos sur la ferme. Après, il y a des périodes où il y a moins besoin de temps sur la ferme. Donc là, je me mets en journée. Et puis.
Quand on t'écoute, on a l'air de. Enfin, on retient que c'est ça, mais en fait, ça doit être fatigant malgré tout.
Ouais, bah, il faut jongler, c'est pas toujours évident, mais bon, ça, voilà quoi. Après, la ferme, pour moi, c'est plus un passe-temps qu'une profession, quoi. Je le prends pas. C'est ce qu'on disait avec Stéphane, on a été élevé à la ferme, donc pour nous, c'est un passe-temps, quoi. C'est pas un métier, c'est. Bon, même si, voilà, c'est des contraintes, etc., mais c'est plus un. Passe-temps qu'un métier.
Qu'est-ce qui fait justement que quand on est gamin puis jeune, bon, on finit ses études, on part dans une profession, hein, donc médicale toutes les deux, mm-hmm. tous les deux, hein, et que ensuite on revient à la ferme, c'est quoi, c'est.
Bah, en fait, au départ, pour moi personnellement, c'était un souhait de rester sur la ferme. Hein. Je voulais pas du tout faire d'études et je voulais rester sur la ferme. Les parents ont dit mais non, une ferme c'est pas viable, elle est toute petite, donc, tu tireras pas de revenus, c'est pas la peine, machin. Donc voilà, ils m'ont dit bah tu vas faire tes études et puis après on verra. Mais en pensant bah il va faire ses études, il aura un métier et il nous embêtera plus avec ça. Sauf que bah on a tous les deux terminé nos études. Stéphane lui avait comme on a 10 ans d'écart, il avait déjà commencé à travailler depuis quelques années. Et puis, moi, j'avais terminé mes études, mon père approchait de la retraite. Et donc, on leur redit, on va les revoir en disant, mais non, mais là, vraiment, la ferme, on veut la reprendre. Et là, ils se sont dit, ah zut, donc bon. Donc là, de ce fait-là, ils ont rencontré les associations comme le CEDAPA, Avenir, etc. Et puis, ils se sont fait aiguiller de différentes manières pour dire de reprendre l'exploitation, enfin de transmettre l'exploitation correctement et puis voir que des petites fermes, on pouvait les valoriser autrement que ce que avait fait et puis en vivre quand même un minimum quoi.
Alors le projet, ça reste que tous les deux vous soyez à temps complet sur la ferme au final.
C'est ça, ouais. Ouais.
Et dans ton esprit, je sais pas si c'est très clair, mais dans ton esprit, la perspective, c'est pour dans combien de temps, c'est peut-être pas du tout clair. Hein, je pose
si,
la question.
Si, bah, c'est au final, c'est facile. Hein. En gros, c'est quand on aura remboursé les gros prêts à la banque, donc pas avant encore après donc la conversion en bio, déjà quand on aura tout converti en bio en 2022 23 24 25 parce que ça sera en 2022 ça sera en conversion mais pas forcément en bio et après après on sera en donc quand on sera en bio le revenu de la ferme sera pas tout à fait pareil, je pense qu'on pourra se libérer plus de temps de travail à l'hôpital pour, enfin, je pense qu'on arrivera à se tirer un petit peu de salaire quand même sur la ferme et ça me permettra de se libérer plus de temps sur la ferme, quoi.
Les prix dont tu parles, c'est portent sur quoi ?
Bah, c'est la reprise du matériel, les achats de nouveaux matériels parce que forcément, comme on est passé en bio, on a dû un peu modifier le matériel, quoi. Le matériel qu'on avait, il n'était pas adapté à la production en bio, donc il a fallu modifier, et puis bon, il y a des reprises qu'on a dû... Enfin, notre oncle, on a dû faire une reprise quand même de terre, donc il a fallu le financer, quoi, parce que c'est...
Donc, j'essaie de suivre ton raisonnement, hein. Les revenus actuels de la ferme, en gros, remboursent les prêts, et donc vous vivez sur votre deuxième...
C'est ça, ouais.
Et donc, effectivement, quand les prêts seront remboursés, là, on estime... Enfin, toi et Stéphane, vous estimez que les revenus de la ferme... contribueront à vous payer.
Ouais, puis après, nous, il y a aussi le fait qu'on ait des maisons à rembourser pour l'instant, donc on sert aussi du salaire de l'hôpital pour rembourser les maisons, et puis on en a encore pour quelques années, mais Stéphane, dans moins de 10 ans, il aura fini de rembourser sa maison, et moi, dans maximum 15 ans, j'aurai remboursé ma maison, donc je serai plus aussi pris à la gorge.
Ah, peut-être une question, hein, changement d'activité complet pour tous les... Enfin, complet. Quand même un beau virage pour l'un et l'autre. Comment ça se passe au niveau de la famille ? Ça peut pas marcher s'il n'y a pas le soutien de la famille. Ça,
bah ouais, non, bah oui, d'accord.
Tout le monde était habitué à ton salaire d'infirmier, le salaire de Stéphane à l'hôpital. Donc il y a un changement complet.
Ouais, après, moi, ça se voit pas trop pour moi parce que je suis passé de 100% à 80%, donc la différence, elle est pas énorme. Et puis, enfin, donc ça se voit pas. C'est plus au niveau, enfin, financièrement, ça se voit pas trop. Moi, je pense que c'est plus au niveau du temps, quoi, parce que j'entends souvent que je suis pas beaucoup à la maison, que voilà. Mais après, ça fait partie des choses qui avaient été exposées avant de reprendre la ferme. Ça faisait partie des choses. Enfin, c'est des choses qu'on avait mis sur la table avant de reprendre la ferme, quoi.
Après... Il valait mieux, je pense.
Oui, sinon j'aurais aimé valiser la porte. Et...
Oui, voilà. Autant éviter ce type de, ouais. de soucis. Tu évoquais le CEDAPA à venir. C'est important un réseau comme ça pour quand on s'installe.
Ah bah je pense, ouais, parce que pour nous, pour les parents, ça leur a impulsé des choses auxquels ils pensaient même pas, et ça les a fait réfléchir sur beaucoup de choses, et ça leur a beaucoup facilité la vie dans la transmission de la ferme, quoi. Parce qu'il y a plein de choses auxquelles ils pensaient pas et auxquelles le CEDAPA leur a fait penser ou à venir, enfin, je veux dire, c'est ouais.
Et aujourd'hui, toi, tu continues à côtoyer ces réseaux là c'est aussi l'occasion de voir d'autres paysans, d'autres...
Ouais, bah c'est intéressant, ouais, parce qu'on rencontre d'autres paysans. Bon, on va dire que je côtoie beaucoup moins le réseau parce que bah, c'est vrai que les deux activités plus des activités sur des associations, c'est compliqué. Mais effectivement, c'est toujours intéressant parce que ça permet de rencontrer des gens qui ont des projets qui sont intéressants et de voir que voilà, même être des tout petits projets peuvent fonctionner. Et puis des gens, voir des gens qui sont heureux dans ce qu'ils font alors que leur projet est minuscule et que si on écoute les politiques, c'est des projets qui sont pas viables, et etc. Alors que les gens sont heureux dans ce qu'ils font, et je pense que c'est le principal.
Sûrement, effectivement.
Je préfère être heureux et enfin après, ouais, c'est chacun sa façon de voir, hein, mais voilà.
Alors toi et Stéphane, bon, si j'entends ce que tu nous dis aujourd'hui, c'est... Les perspectives sont plutôt au beau fixe. Hein. Bon, il y a du travail.
Ouais.
C'est pas du court terme. Hein. Tu parlais de 2022. Toi et Stéphane, vous mettez un pied devant l'autre. Mais bon, on a l'impression que la boussole, elle est quand même positive. D'une manière générale, comment est-ce que tu vois le monde agricole, le monde paysan ? Tu es optimiste avec les consommateurs, avec les partenaires, avec. Quelle est ta vision de ce monde-là ?
Ouais. Ce qu'on voit, c'est quand même le public en général est plus concerné par l'agriculture depuis quelques années, depuis, bah, je pense, que certaines émissions de journalistes qui ont pointé des choses hein, sur l'agriculture. Je pense que les gens veulent se rapprocher de ce qu'ils consomment et être plus proche du producteur pour avoir une assurance de ce qu'ils mangent, quoi, et pas aller au supermarché et acheter un produit qui vient de l'autre bout du monde ou je ne sais quoi et dont ils savent pas du tout comment il a été produit. Alors, je pense que y a, dans le public en général, il y a pas mal de gens qui sont intéressés d'aller voir comment ça peut pousser et voir les difficultés que les producteurs ont à faire pousser certaines choses hein, parce que ça c'est pas du tout cuit, c'est pas tu mets une graine et puis tu reviens et tu récoltes quoi. Donc ils peuvent voir les difficultés et puis voir que bah ouais les prix bon, sont un peu plus élevés mais ouais effectivement c'est pas tout simple et il y a du boulot pour faire pousser quelque chose, hein, pour avoir une récolte correcte. Quoi.
Bah écoute, merci Benoît, et puis bonne continuation et bon courage.
Non, de rien, Lucien, à bientôt.
Ce micro-rebelle reportage se termine.
Retrouvez tous nos reportages sur le site de notre web radio micro-rebelle.fr en podcast ou en téléchargement.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un courriel à contact@micro-rebelle.fr.
Salut à toutes et à tous et à bientôt pour un nouveau Micro-Rebelle reportage.